Vous êtes sur RTL.
18h. Place à l'info tout de suite, Thomas Soto. Bonsoir Thomas pour RTL Soir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue donc dans RTL Soir. Ça y est, on reconfine. Enfin, on reconfine dans les Alpes-Maritimes. Enfin, on reconfine dans une partie des Alpes-Maritimes. Enfin, sur une partie du littoral entre Menton et Théoule-sur-Mer. Décision valable, ça c'est sûr, pour les deux week-ends qui viennent. C'est une première. À 18h15, on demandera notamment au professeur Combe s'il pense que ça peut être une bonne idée pour faire enfin reculer ce virus. Bonsoir Audrey Nuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous et on
découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce lundi 22 février.
Et on ira d'ailleurs à Nice dès le début de ce journal avec une promesse, celle de contrôle de police renforcée. Également à la une ce soir, le menu de la discorde à Lyon. Pas de viande pour passer, moins de temps à la cantine, on verra ce que dit la loi. Un policier de la BAC du 18e arrondissement de Paris condamné à 8 ans de prison ferme pour corruption. La séparation, surprise des Daft Punk après 28 ans de carrière musicale. Et puis en rugby, le match France-Écosse menacé par 14 cas de Covid au sein du 15 de France.
À 18h30, Barbara Pravi sera en direct avec nous. Elle aussi, notre candidate à l'Eurovision au mois de mai prochain. Elle a des choses à chanter, mais visiblement, elle a aussi des choses à dire. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas.
Et vous, qu'avez-vous à nous dire, joie dans votre... C'est des bonnes nouvelles ou pas?
Oui, ce sont de très bonnes nouvelles.
Il y a du vert.
Même s'il faut une garde-robe assez riche en ce moment, parce que hier, il y avait 24 degrés à Biarritz. Aujourd'hui, 12 degrés.
Donc vous étiez en robe hier et en pantalon aujourd'hui, c'est
exactement,
ça?
Exactement, oui. Enfin bon.
C'est surprenant, Louis Baudin.
Je pensais à des choses différentes, mais bon, les tenues plus légères. Et c'est vrai que demain, de nouveau, les températures vont remonter. Pourquoi? Parce que après cette perturbation qui a traîné sur beaucoup de régions, et notamment dans le sud aujourd'hui, eh bien, on va retrouver des conditions anticycloniques. Et donc, le soleil va revenir. Alors, le matin, il y aura encore ici ou là quelques nuages dans l'ouest ou encore dans le sud. Mais au fil des heures, c'est bien le soleil qui s'imposera. Grand ciel bleu près des frontières de l'Est ou encore près de l'Atlantique. Il n'y a que dans le Languedoc-Roussillon où il restera encore quelques nuages et un petit peu de vent d'autant. Le tout avec des températures donc en hausse l'après-midi. 13 à 16 degrés en Bretagne, mais 16 à 20 degrés dans toutes les autres régions.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Dès vendredi soir, 18h, nouveau serrage de vis dans les Alpes-Maritimes. Reconfinement local le week-end, a annoncé le préfet du département.
La situation épidémique actuelle impose également une restriction des déplacements et donc un confinement partiel. Alors pour les deux week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale qui s'étend de Menton à Théoule-sur-Mer et qui concentre près de 90% de la population du département et zone qui est le principal lieu de contamination. Cette mesure prendra effet dans la zone définie le vendredi soir à 18h et jusqu'au lundi matin à 6h.
Interdit de sortir donc du vendredi soir au lundi matin, sauf dérogation, pour aller chez le médecin, faire vos courses, faire du sport dans un rayon de 5 km autour du domicile. Un refrain malheureusement bien connu et auquel s'attendaient certains Niçois, Mickaël Lefebvre.
Oui, faut-il y voir un lien avec la météo, mais l'humeur des Niçois face à ces nouvelles restrictions était plutôt maussade cet après-midi.
Très déçu, écoutez, moi j'ai pas l'impression que ça va à grand-chose, les confinements. Je pense que les gens tombent plus malades quand ils sont malheureux aussi, donc même les personnes âgées, vulnérables.
La nouvelle de ce reconfinement par évoqué depuis 48 heures sans que cela soit concret, fait même maintenant place à une certaine forme d'exaspération.
Un ras-le-bol général.
Oh, parce qu'on nous mène en bateau depuis un an, il n'y a rien qui a évolué. Pour les gens qui travaillent, ne pas pouvoir profiter le week-end, c'est quand même un peu scandaleux.
Beaucoup de jeunes niçois doutent d'ailleurs de l'utilité d'un confinement sur deux week-ends seulement.
On a déjà été confinés une fois, on a vu que ça s'est aggravé, donc on verra si un confinement week-end marche mieux.
Face à un relâchement, certains espèrent tout de même un effet positif sur l'épidémie.
Moi personnellement, je prends les transports et quand je vois le monde, enfin, quand je vois qu'il n'y a rien qui est respecté, ni le port du masque ou quoi que ce soit, donc je pense que ça ne nous fera pas de mal, au contraire.
Entre fatalisme et colère, les Niçois prient maintenant pour que cela ne dure pas plus que les 15 jours prévus pour le moment.
Mickaël Lefebvre, Nice. Pour RTL, certains commerces sont aussi concernés par les restrictions, ceux de plus de 5000 mètres carrés, qui vont devoir fermer, sauf bien sûr les pharmacies et les magasins alimentaires.
D'après les autorités locales, 500 personnes tombent malades chaque jour dans le département et les soignants observent un rajeunissement des patients hospitalisés pour cause de Covid.
Alors, pour être bien clair, c'est un périmètre précis qui va être partiellement reconfiné, une zone haute qui va de Menton à Théoule-sur-Mer.
Guillaume Chiez, le préfet, promet des contrôles renforcés pour faire respecter les nouvelles mesures. Alors comment vont s'organiser policiers et gendarmes ?
Alors, pour le moment, il faut d'abord définir exactement quelle est cette zone urbaine littorale dont parle le préfet. Une liste des communes est en train d'être rédigée pour savoir qui est concerné par ce confinement. Ensuite, policiers, gendarmes, policiers municipaux vont être mobilisés dès vendredi soir. Et dans cette zone littorale, on appliquera exactement les mêmes règles qu'en mars dernier. Interdiction de sortir de chez soi, donc sauf dérogation. Ces dérogations, vous les connaissez par cœur, j'imagine. Course de première nécessité, garde d'enfants, promenade limitée à 1 heure à 5 km ou rendez-vous médical. Les personnes qui voudraient entrer dans cette zone littorale des Alpes-Maritimes durant le week-end seront soumises aux mêmes règles. Le but, c'est aussi de décourager les visiteurs. En revanche, rien n'interdit les habitants concernés par le confinement local de quitter la zone littorale avant vendredi soir. Enfin, le préfet l'a annoncé, tout voyageur arrivant en train ou en avion dans les Alpes-Maritimes pourra être soumis à un test PCR de façon aléatoire.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Chez nos voisins britanniques, l'heure est au déconfinement progressif, réouverture des commerces non essentiels dès le 12 avril en Angleterre. Retour potentiel des supporters dans les stades le 17 mai. Le gouvernement espère lever les dernières restrictions anti-Covid d'ici fin juin.
Voilà pour l'Angleterre. On revient en France avec l'autre polémique du jour. C'est à Lyon, cette histoire de menu unique végétarien dans les cantines et qui n'est pas au goût de tout le monde.
Polémique après cette décision de la mairie écologiste. Elle est censée raccourcir le temps passé par les enfants à la cantine. Il y a depuis ce matin uniquement du poisson ou des œufs comme protéines animales proposées.
Vous mettez plus longtemps à manger le poisson que les œufs ?
Eh ben, je vais vous expliquer. Apparemment, Virginie Garin, que dit la loi très concrètement ?
Alors, en tout cas, ça ne respecte pas un décret de 2011 sur l'équilibre nutritionnel dans les cantines qui impose de servir un certain nombre de fois des aliments. Nicole Soulinque est diététicienne.
En partant du critère que le repas de midi doit couvrir 40% des besoins énergétiques de l'enfant, un certain nombre de fréquences sont obligatoires. 4 fois de la viande rouge sur 20 jours. Mais vous avez aussi des fréquences pour toutes les catégories d'aliments. Les laitages, les crudités, pour améliorer l'équilibre alimentaire des enfants.
Imposer des repas sans viande, certaines communes ont déjà essayé, pas toute la semaine. Pour Jean-Baptiste Moreau, député En Marche, il y a eu beaucoup de déchets.
Il y a de nombreuses collectivités qui aujourd'hui l'avaient proposé, qui reviennent en arrière parce que ça entraîne du gaspillage alimentaire monumental avec des enfants qui ne mangent rien et des collectivités qui se retrouvent avec quasiment le contenu de l'assiette à la poubelle. Et pourquoi pas de viande et pourquoi du poisson ? Enfin, c'est pas cohérent. Qu'on nous dise pas que c'est un problème de temps. Je pense que du poisson avec des arêtes, ça prend un peu plus de temps à manger qu'un morceau de steak.
La décision de la ville de Lyon n'entre pas non plus dans le cadre de la loi alimentation votée il y a 2 ans qui autorise les communes à servir un repas végétarien, mais une fois par semaine seulement.
Les explications.
Parce que sinon, une bonne soupe pour tout le monde et ça va plus vite.
Ah oui, ça c'est sûr.
Mais c'est moins complet.
Également à la une, 10 jours après le début du procès, l'un des policiers de la BAC du 18e à Paris, condamné à 8 ans de prison ferme pour corruption. Il avait mis en place un réseau avec des trafiquants de drogue dans le quartier de la Goutte d'Or. 5 de ses collègues ont aussi été condamnés. Et la justice s'est montrée très sévère, Anne Le Hennaf.
À plusieurs reprises, la juge a levé les yeux de son papier pour fixer ceux qu'elle condamnait un par un et leur dire « Vous avez agi comme un trafiquant de stupéfiants. Vous avez trompé l'autorité judiciaire. Vous n'êtes pas digne d'exercer la fonction de policier. » 3 ont d'ailleurs été interdits de fonction publique à vie, dont le principal prévenu, Bilka, Kabil en verlan, qui a rappelé la présidente, n'a pas retiré d'argent liquide à la banque en 4 ans et qui, dans son box, a continué à affirmer que l'assurance qu'il proposait aux dealers, on l'a entendu sur des écoutes, c'était du bluff, sans aucune contrepartie. Son avocat, maître Patrick Maisonneuve.
C'est un jugement qui repose sur des affirmations. Je n'ai pas vu de démonstration, je n'ai même pas vu de nuance. Même dans les temps les plus anciens, on n'admettait pas dans la justice de ce pays qu'on puisse être condamné sur la base de l'accusation d'un co-accusé, d'un co-prévenu.
Il a déjà fait appel de ce jugement, comme plusieurs autres avocats des 5 autres policiers condamnés à des peines allant de 4 ans de prison, dont 2 fermes, à 1 an de sursis.
Merci à vous, Anne Le Hennaf.
On marque une petite pause dans un instant. France-Écosse. Ce sera France-Écosse ou France-Covid d'ailleurs pour le tournoi de destination. Eh bien, c'est pas tranché, mais les cas s'accumulent dans le 15 de France. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal Aude Vernuccio. 2 ans après le mouvement de contestation massif en Algérie qu'on avait appelé le Irak et qui avait fait tomber le président Bouteflika, 2 nouvelles manifestations dans les rues des grandes villes algériennes aujourd'hui.
Et cela faisait 1 an que la pandémie avait mis les manifestants en sourdine, mais Christophe Decroix, ils sont aujourd'hui revenus en masse.
Oui, malgré la pandémie et la pluie, ils sont descendus par milliers dans les rues d'Alger, mais aussi d'Oran, Béjaïa, Sétif ou Constantine. La police a bien cherché à couper les routes, procédant parfois à des interpellations population musclée. Cela n'a pas empêché les manifestants de demander une nouvelle fois le départ du régime. Pour eux, comme pour Abdelwahab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeune, le mouvement de contestation ne peut s'arrêter là.
Personnellement, je ne vois pas des mesures concrètes pour l'apaisement. Parce que nous avons d'un côté un peuple déterminé dans sa marche vers la liberté et la démocratie. D'un autre côté, le pouvoir continue son entêtement, sa politique de fait accomplie.
Le président Tebboune a pourtant gracié quelques dizaines d'opposants emprisonnés et promis des élections législatives dans les prochains mois. Mais Abdelwahab Fersaoui, qui a fait lui-même plus de 7 mois de prison, n'y croit pas.
L'Algérie a connu des dizaines d'élections depuis 1989 à ce jour, sans qu'il y ait un changement. C'est des élections entachées de fraude, les médias sont verrouillés, en plus la répression.
La tension est telle que, selon Amnesty International, certains manifestants auraient même été torturés en prison ces derniers mois.
Christophe Decroix pour RTL. Les sports et en rugby, une semaine après les premiers cas découverts au sein du 15 de France et son staff, les contaminations se multiplient. 14 joueurs testés positifs à quelques jours de la troisième journée du tournoi des Six Nations. Éric Silvestro, bonsoir.
Bonsoir.
L'équipe de France va-t-elle pouvoir jouer dimanche face à l'Écosse?
Le doute est permis, surtout si les tests PCR effectués désormais quotidiennement à Marcoussis continue de révéler de nouveaux cas positifs chaque jour. Selon nos informations, la fédération écossaise émet par ailleurs une réserve sur la venue de son équipe à Paris. Néanmoins, tout est mis en œuvre pour disputer la rencontre. Entraînement sans ballon et avec distanciation. Aucune séance collective avant mercredi et des joueurs placés en chambre individuelle, même pour la prise des repas.
Et donc la question, c'est de savoir avec quelle équipe... Je pensais qu'on allait avoir un petit son, là, on les entend manger, tout ça, non? Avec quelle équipe de France va-t-on affronter l'Écosse, alors, si c'est ça?
On ne peut pas rentrer, ils sont en bulle sanitaire, Thomas. On ne peut pas emmener le micro, même quand ils mangent dans la chambre. Il faut qu'ils restent tout seuls.
On va habituer à mieux, Sylvestre.
Une équipe affaiblie, forcément, pour ne pas dire une équipe B. Les tests positifs du capitaine Charles Olivon, de l'arrière Brice Dulin et du pilier Cyril Bailly portent à 8 le nombre de titulaires du 15 de France absent dimanche. Baptiste Sorin pourrait remplacer Antoine Dupont à la mêlée et porter le brassard, mais la majorité des remplaçants appelés en renfort ne comptent aucune sélection. Après 2 victoires contre l'Italie et l'Irlande, la France ambitionne de remporter le tournoi. Mais attention au 15 du Chardon qui a battu les Bleus l'an dernier à Murrayfield et qui rêve d'un premier succès en France depuis 1999.
Bah non, ils vont éviter.
Silvestro du service des sports d'RTL. Cet adieu déchirant pour des milliers de fans. Après 28 ans de carrière, les Daft Punk se séparent. Vous connaissez cette chanson, Thomas?
Depuis 28 ans avec le même casque sur la tête, ils ont envie de souffler, les mecs.
One More Time des Daft Punk, hein, annonce faite dans une vidéo de près de 8 minutes, vidéo silencieuse jusqu'à l'explosion carrément d'un des personnages. Et pour bien faire passer le message, les deux Français stars de la musique électro ont terminé avec une épitaphe 1993-2021.
Et notez que RTL reviendra sur la carrière exceptionnelle de Daft Punk. Rendez-vous dès 21h avec Eric Jean-Jean pour une émission spéciale ce soir. Voilà, ça vous apaisera de cet adieu déchirant. Aude, je vous sens bouleversé. Allez, on va quand même passer à la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
C'est l'histoire incroyable d'une survivante, Hayley, une Américaine de 29 ans guérie du cancer des os. Elle va partir dans l'espace à bord du premier vol privé de SpaceX. Elle était chez elle, à Memphis, quand elle a reçu un drôle d'appel, une récompense pour une battante, Lionel Gendron.
20 ans d'écart et le même sourire entre les deux photos. Sur la première, Hayley a 10 ans. Elle n'a plus de cheveux après un traitement contre un cancer des os. Sur la deuxième, toujours dans ce même hôpital pour enfants, elle est une jeune femme de 29 ans aux cheveux longs, devenue aide-soignante. Hayley est l'héroïne des enfants qu'elle côtoie, car elle va aller dans l'espace. Un vol orbital de 3 ou 4 jours, les promoteurs voulaient récompenser un membre du personnel soignant. Le parcours de la jeune femme les a touchés. Quand elle a reçu l'appel, elle n'a pas masqué sa joie.
On me dit, il y a une place dans la fusée. Vous voulez aller dans l'espace? Tout de suite, j'ai dit, oui, oui, s'il vous plaît. Je veux y aller, ça paraît incroyable. Mais après, je me suis dit, il faut que j'en parle à ma mère.
Sa mère a dit oui. Hayley est un modèle pour les enfants qu'elle soigne et elle le revendique. Elle devrait être la plus jeune américaine dans l'espace, la première avec un handicap. Suite à son cancer, les médecins lui ont posé une prothèse à une jambe. Mais même le ciel n'a pas de limite pour elle.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis.
Merci à vous, Aude. Dans un instant, vous l'avez entendu, on ferme à Nice et dans le secteur, en tout cas le week-end, reconfinement local. On s'interroge et on s'inquiète ailleurs. Le professeur Érico est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a aussi publié Urgence sanitaire chez Robert Laffont. Le professeur Éric Combe est donc l'invité d'actualité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Éric Combe.
Bonsoir.
Je vais vous raconter ma vie, Éric Combe. J'étais pas là, j'étais loin de Paris la semaine dernière. J'ai coupé les robinets d'informations et je me suis reconnecté ce week-end. Et franchement, j'y comprends plus rien. On en est où de la situation? Est-ce qu'on est au bord du gouffre? Est-ce qu'on est déjà en train de tomber dans le gouffre? Au contraire, est-ce que ça va mieux? On en est où de cette épidémie?
C'est vrai que ce n'est pas évident à suivre. Et en fait, vous ne comprenez pas. Et pour une raison très simple, c'est parce que la situation est très diverse. Et elle est très variable d'une région d'une France à une autre. Par exemple, si vous êtes à Nice en ce moment, bah, comme vous savez, ça ne va pas très bien. Si vous êtes à Dunkerque non plus. Si vous êtes à Metz, pas terrible. Mais si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Nantes, ou à Rennes, ou à Brest, tout va très bien.
Mais vous comprenez, vous, pourquoi ça ne va tellement pas dans certains endroits et tellement ça va, pourquoi ça va tellement bien dans d'autres?
Alors non, c'est quelque chose que, enfin, en tout cas, moi, je ne comprends pas, mais je n'ai pas l'impression que grand monde comprend.
Ouais. Alors, on a entendu dans le journal de 18h, vous évoquiez Nice, hein, ce reconfinement dans une partie des Alpes-Maritimes. Confinement donc voilà pour les deux week-ends qui viennent et qui va concerner la bande littorale entre Théoul-sur-Mer et Menton. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que c'est le bon traitement?
Donc si je vous comprends bien, parce que j'ai pas eu le temps d'écouter la radio avant d'arriver ici, il va y avoir un confinement très localisé,
exactement.
Du bord de mer. Quoi,
exactement. Entre Théoul-sur-Mer et Menton. Pas toutes les Alpes-Maritimes, mais cette partie-là.
D'accord, mais du bord de mer. Quoi.
Mais du bord de mer.
Là, ils iront dans l'arrière-pays, voilà, où le climat est très agréable d'ailleurs.
Donc vous dites que ça sert à rien?
Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, je pense que les confinements... un confinement du bord de mer, si vous voulez. On ne se contamine pas en allant au bord de la mer ou en se baignant, je pense, dans la Méditerranée.
Mais c'est pour éviter un afflux de touristes aussi.
Oui, je comprends. Mais bon, à partir du moment où les lieux où peuvent se retrouver les touristes sont fermés, puisque quand même, les lieux clos sont fermés. Je rappelle que c'est quand même avant tout... On a tendance un peu à perdre nos repères aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à ne plus rien y comprendre, parce qu'on perd tous nos repères. Par exemple, là, on est masqué à l'intérieur, et c'est très bien. Mais à l'extérieur, les gens sont masqués aussi, alors que c'est... je suis désolé de revenir sur cette évidence, mais on n'a jamais prouvé qu'il y avait des contaminations et des clusters à l'extérieur. Quoi.
Vous êtes en train de nous dire quoi, que le masque qu'on porte à l'extérieur n'est pas forcément nécessaire?
Oui, mais ça, je l'ai dit, c'est pas nouveau, je le dis depuis des mois.
Parce qu'à Nice, là, dans les Alpes-Maritimes, le masque devient obligatoire toute la journée dans la ville.
J'ai vu ça, et c'est pour ça qu'on arrive à plus rien comprendre, quoi, parce qu'on dit aux gens, faites attention à l'intérieur, en même temps, on leur dit de porter le masque à l'extérieur. Ça concourt au fait qu'ils en ont ras-le-bol également. Parce qu'on en a quand même, là je me mets on parce que je fais partie de la population qui en a un peu assez aussi, comme beaucoup de gens. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile à suivre.
Et l'idée de reconfinement local, même si on la limite pas, on a bien compris que vous n'étiez pas convaincu par le reconfinement du bord de mer, mais l'idée de reconfinement locaux, c'est
une... je pense que c'est une bonne idée. Ça, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Là, je faisais effectivement, vous avez bien fait de me reprendre pour préciser ça. Effectivement, le bord de mer, bon, je pense que c'est très anecdotique. Mais reconfiner localement, départementalement, c'est tout à fait logique. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Et on en discute beaucoup actuellement, vous savez, avec les fameuses zones vertes, les zones rouges.
Alors, les zones vertes, en fait, sont des médecins, hein, de vos confrères, de vos consoeurs, également des politistes, également des économistes, qui ont dit qu'on devrait peut-être mettre des systèmes de zones vertes, des zones qui sont sans Covid, Covid-free, comme on dirait. Ouais. Et là, on pourrait tout faire, rouvrir les magasins, rouvrir les restaurants, rouvrir les cafés, les théâtres. Pour vous, c'est crédible, c'est possible, ça?
Le problème, c'est que ça me renvoie à une discussion, des discussions qu'on avait entre spécialistes il y a un an. Ou peut-être pas il y a un an, mais en tout cas...
Il ne vous a pas échappé que les spécialistes ont un peu dit tout et sont contraires depuis un an aussi.
Cette discussion-là, sur le Covid-free, etc., nos Covid, etc., on l'avait il y a un an, moi je me souviens très bien, on l'avait il y a 10 mois. Le livre dont vous parliez tout à l'heure, j'en discute, et il a été écrit il y a 6 mois. Donc si vous voulez, là à un moment, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je me dis, mais c'est pas possible, on est revenu à la case départ. Exactement la même genre de discussion. Or, les gens qui nous gouvernent sont loin d'être stupides. Ils savent très bien, et ils ont vu l'exemple à l'extérieur, et on en a parlé pendant des mois, que nos Covid auraient été l'idéal, c'est-à-dire pas de Covid qui circule, Taïwan, Singapour, on va parvenir sur ces exemples-là.
Mais ça passe par des confinements très stricts, alors.
Oui, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Or, bien qu'ils sachent que c'est très efficace, ils ne l'ont pas fait. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils se sont rendus à l'évidence que ce n'était probablement pas possible.
Alors,
à faire.
Pour qu'on comprenne bien, professeur Combes, vous dites quoi ? Vous dites qu'il faudrait reconfiner une bonne fois pour toutes et après déterminer des zones vertes. C'est ça ce qu'il faudrait faire ?
C'est ce que proposent les personnes, effectivement, qui veulent vivre sans Covid. C'est-à-dire, le modèle, c'est...
Mais vous ne l'avez pas signé, cette tribune, sauf erreur de ma part.
Non, je ne l'ai pas signé. Non, je ne l'ai pas signé parce que, bon, moi, je réfléchis à ces problèmes-là déjà depuis des mois. Et je pense que ce n'est pas un problème nouveau. Et je pense que les gens qui nous gouvernent y ont réfléchi aussi et qu'ils sont arrivés à l'évidence que ce n'était pas possible. Parce que sinon, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Et on est mauvais, ceux qui dirigent, les scientifiques qui les conseillent, ou c'est ce Covid qui est vraiment plus fort que nous,
non,
avec ses variants, avec ses façons de muter, d'évoluer
Ben oui, c'est sûr que c'est un virus qui a un côté un peu diabolique, hein, on ne va pas se mentir, c'est la vérité. Mais quand on voit ce qui se passe dans les pays d'Asie du Sud-Est dont on parlait, ben finalement, ils se débrouillent très bien. Mais vous avez vu la difficulté. Par exemple, quand on a vu ce qui s'est passé en Australie ou ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, où ils avaient zéro Covid, puisqu'ils se tendaient vers la politique zéro Covid, vous avez vu l'Australie, Melbourne, le Grand Prix d'Australie, et paf, ça redémarre. Donc, si vous voulez, c'est quasiment mission impossible d'arrêter ce virus. Ou alors, il faut vivre sur une île, fermer toutes les frontières, mettre toutes les personnes qui rentrent dans votre île ou dans votre territoire en quarantaine, et une quarantaine sérieuse, hein, c'est-à-dire pas 7 jours si vous le voulez bien, une vraie quarantaine de 14 jours.
Mais alors comment on vit ? Comment on vit ? Puisque en fait vous êtes en train de dire qu'il va falloir apprendre à vivre avec, on ne va pas réussir à s'en débarrasser, c'est ça ? Même avec les vaccins ?
Ben non, le vaccin, ça va nous permettre de vivre avec en bonne intelligence, mais malheureusement, un vaccin à lui tout seul n'a jamais suffi à nous débarrasser d'une maladie. Mmh. Il faut dépister, tester, tracer, isoler. Hein. Le triptyque, c'est tester, tracer, isoler. On le sait très bien et ça fait des mois qu'on le sait.
Ça fait un an qu'on entend
oui,
ça.
Ça fait un an.
On a l'impression que la situation est quasiment peu ou prou la même un an après.
Oui, exactement. J'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond depuis effectivement plusieurs mois avec des discussions. Que je retrouve qui sont exactement les discussions de l'année dernière.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que le mois de mars, le mois qui vient, va être affreux ?
Je vais vous dire la vérité, j'en sais strictement rien. C'est-à-dire, oui, je suis inquiet, évidemment, comme beaucoup de gens, mais je n'en sais rien. C'est-à-dire, je ne sais pas au-delà de 15 jours ce qui va se passer. On est sur une ligne de crête, vous l'avez très bien compris, ça peut basculer du bon côté comme ça peut basculer du mauvais côté. Il y a plus de crainte que ça bascule du mauvais côté, mais à force de... Ça fait des semaines et des semaines qu'on entend des gens nous dire que ça va basculer du mauvais côté, et ça fait des semaines et des semaines qu'on ne voit toujours pas ça basculer du mauvais côté. Même si on est sur une ligne de crête qui rend les choses quand même très compliquées.
Ça veut dire quoi que pour l'instant, le couvre-feu à 18 au niveau national, c'est plutôt une bonne mesure ?
Bah, oui, mais en même temps, on ne va pas pouvoir vivre comme ça pendant une éternité. Donc, à un moment, il va falloir... vous voyez, à force de restreindre les libertés de plus en plus, je pense que ça ne va pas être tenable une éternité.
J'ai l'impression que vous avez presque davantage un problème philosophique de mode de vie qu'un problème médical en vous écoutant
ce soir. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les dernières personnes qui m'avaient interviewé, je leur avais dit, vous ne devriez plus inviter de médecin ou de scientifique ou d'épidémiologie, parce que de toute façon, ça sera forcément une vision catastrophique, parce qu'ils ne seront concentrés que sur la médecine, enfin, que sur le Covid. Vous devez inviter des philosophes ou des spécialistes en éthique, parce qu'on a besoin d'une réflexion philosophique, maintenant, arrivée à ce stade de l'épidémie.
Professeur Combes, les généralistes ont commencé à recevoir les premières doses du vaccin AstraZeneca, du vaccin, et ils pourront normalement débuter la vaccination dans leur cabinet à partir de jeudi. Ce sera pour les patients de plus de 50 ans, les plus fragiles. Il a déjà pas très bonne réputation, ce vaccin. Est-ce un bon vaccin ? Est-ce que c'est un vaccin bof, mais comme on n'a pas mieux, on fait avec ? Est-ce que c'est un vaccin de seconde zone ? C'est quoi, ce vaccin ?
Non, je crois qu'on ne peut pas parler de vaccin de seconde zone. C'est comme tous les médicaments, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça a des intérêts, ça a des limites. Et ce vaccin a effectivement certaines limites, notamment sa mauvaise tolérance. Ça, oui, il est moins bien toléré quand même que d'autres vaccins disponibles. Une moindre efficacité, mais enfin, il protège quand même des formes graves de Covid. Et il vaut mieux se faire vacciner qu'attraper une forme grave de Covid. C'est clair, il n'y a pas photo.
Et l'immunité collective qui devient un fantasme collectif, c'est pour quand ? Est-ce qu'on peut dire qu'avant la fin de l'année 2021, là, on aura cette espèce de protection collective ?
Alors, on était tous partis, enfin la plupart des gens étaient partis sur cette histoire d'immunité collective, hein, en se disant que qu'on atteigne l'immunité collective par voie naturelle ou par voie vaccinale, bah finalement c'était la seule solution et que ça nous mettrait à l'abri de l'épidémie. Et là actuellement, l'histoire des variants remet un peu en cause ça, puisqu'on se rend compte que des variants contournent l'immunité, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit post-vaccinale.
Le variant sud-africain,
mais par exemple, il y a un vaccin qui marche sur le variant sud-africain et l'autre qui ne marche pas. Il y a il y a le vaccin, il y a le variant brésilien qui arrive. Et d'ailleurs, plutôt que de parler de variants, on devrait parler de mutations qui sont associées à certaines variants.
Pardon,
mais bon, on va pas
rentrer
dans les
détails. Je vous interromps, professeur, parce que encore, je vais vous reposer la même question, mais on fait quoi ? Il faut quoi ? Vu la situation que vous me décrivez, on accepte de vivre avec le risque de l'attraper, le risque d'être malade et le risque de mourir. C'est ça la solution aujourd'hui ?
Ben ça, c'est pas une question qu'il faut me poser à moi en tant que médecin, parce que moi, en tant que médecin, et tous les médecins vous feront la même réponse, ils vous diront « Ben non, on peut pas accepter de vivre avec ça, donc on met le pays sous cloche, donc on confine, etc. » Après, si vous voulez, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan moral, cette attitude a des conséquences qui sont de plus en plus apparentes à l'ensemble.
Avec des dépressions importantes.
Oui, il y a 20% d'anxiété et de dépression dans la population française. C'est l'enquête Covid-Prev. Il y a presque 70% de personnes qui ont des troubles du sommeil. Donc voilà, il y a des problèmes. Mais bon, il y a aussi des problèmes avec les patients qui n'ont pas le Covid, parce que les services sont saturés par les Covid. Donc oui, il y a beaucoup de soucis.
Et les traitements, on n'en parle pas des traitements. Ça avance, ça, ou pas ?
Alors malheureusement, on ne parle pas des traitements pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de traitement.
Il n'y a pas de traitement.
Nous n'avons toujours pas de traitement, en dehors des corticoïdes. Mais vous voyez, on parlait déjà des corticoïdes il y a 6 mois. Et depuis, il y a eu un tout petit progrès de rien du tout.
J'étais pas particulièrement déprimé avant de vous recevoir. Là, je commence à l'être. Donnez-nous une petite raison de dire, allez, on va s'en sortir, ça va aller.
Ben oui, on va s'en sortir. C'est évident qu'on va s'en sortir. Entre l'immunité naturelle, l'immunité post-vaccinale, on va évidemment s'en sortir. Simplement, ça va prendre peut-être plus de temps que ce qu'on avait prévu.
Donc pas forcément cette année.
Et puis je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves que le Covid. Hein. Regardez Ebola, par exemple, en Afrique actuellement.
Enfin, une fois qu'on est mort du Covid, qu'on soit mort du Covid ou d'Ebola, on est mort. Hein.
Oui, mais enfin, Ebola, c'est 50% de mortalité. Le Covid, c'est 5 pour 1000. Donc, vous voyez la différence entre 5 pour 1000 et 50%. C'est quand même.
Donc, vous nous dites remettons les choses en perspective, voilà, et les choses à leur place, c'est ça ?
Exactement.
C'est ça l'urgence. Exactement. J'ai une toute dernière question. On parlait rugby tout à l'heure. Je crois que vous êtes membre de la commission médicale de la Fédération de rugby. Il y a ce match Écosse-France.
Ouais. Donc là, c'est le supporter que vous interviewez.
Non, là, c'est le membre de la commission de rugby. Il peut avoir lieu ce match, à votre avis ? Qu'est-ce que vous recommandez, vous ?
Ben, moi, j'ai recommandé que le match n'ait pas lieu.
Ouais.
Voilà, je vous dis franchement, parce que je pense que les conditions ne sont pas réunis pour que le match ait lieu en toute sécurité et en toute équité. Parce que de toute façon, la colonne vertébrale, enfin, beaucoup de joueurs clés de l'équipe de France ne seront absents, comme vous savez. Ouais. Et donc, pour qu'il y ait une certaine équité qui soit respectée, et plutôt que de perdre, je crois, 28-0, hein, quand on peut pas
oui,
se présenter.
Sur tapis vert, c'est 28-0.
Voilà, 28-0. Ouais. Je pense que ça serait sympathique que les Écossais acceptent que le match soit reporté.
Et la Fédération française de rugby est sur votre position ? Vous les avez convaincus ou...
Écoutez, on verra. Je ne suis pas sûr de les avoir convaincus. Ils pensent qu'on peut jouer. Voilà, je suis pas...
En tout cas, c'est qui décide au final ? C'est les organisateurs du tournoi, c'est
oui,
ça ?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, on m'a juste demandé un avis ponctuel que j'ai donné. Et voilà, et ce n'est pas moi qui prends les décisions, bien évidemment.
Vous dites qu'il ne faut pas jouer pour des raisons éthiques et sportives et aussi pour des raisons médicales ou
ah
pas ?
Ah oui, évidemment. Ouais. Oui, j'aurais dû commencer par ça.
Mais vous n'avez pas envie d'être médecin ce soir.
Voilà, c'est peut-être un peu ça, effectivement.
Merci infiniment, professeur Combe, d'être venu nous voir.
Merci
ce soir dans RTL Soir. Elle chante ça, tiens, écoutez. Et avec ce titre, voilà, elle nous représentera l'Eurovision au mois de mai à Rotterdam. Barbara Pravi est l'invitée d'RTL Soir tout de suite après le rappel des titres.
RTL Soir, Thomas Otto.
RTL. 18h32.
RTL Soir, Thomas Otto.
Et Aude Vernuccio pour le rappel.
Un reconfinement partiel le week-end dans les Alpes-Maritimes de Menton à Théoul-sur-Mer. Pas de sortie du vendredi soir 18h au lundi matin 6h. C'est environ 90% de la population du département. Reconfiner le bord de mer uniquement ne sert pas à grand-chose, selon le professeur Eric Combe. Il l'admet, à l'approche d'une année de pandémie, on tourne en rond. En rugby, le 15 de France, décimé par les cas, 14 personnes positives parmi les joueurs et le staff de l'équipe. Incertitude sur le match France-Écosse dimanche dans le cadre du tournoi des 6 nations. Le professeur Eric Combe recommande à l'instant de ne pas jouer le match. L'Angleterre
L'Angleterre, elle, est sur la voie du déconfinement, réouverture des commerces non essentiels dès le 12 avril, retour potentiel des supporters dans les stades le 17 mai. Le gouvernement espère lever les dernières restrictions fin juin.
La météo, au moins, il fait beau.
Exactement, il fera beau, hein, parce que la soirée, il ne fait pas encore très beau partout. Hein. Il y a encore de la pluie, du vent dans le sud, mais c'est vrai que demain, il fera beau. Alors le matin, il restera quelques nuages des côtes de la Manche jusqu'aux Pyrénées, en passant par la façade atlantique, et puis également de la pluie sur le Languedoc-Roussillon. Déjà beaucoup de soleil dans l'est, et puis en cours d'après-midi, là, ça sera soleil pour tout le monde. Quelques rares nuages ici ou là, notamment encore une fois dans le Languedoc-Roussillon. Un peu de vent d'automne, mais plutôt en atténuation. Et donc avec ce soleil, des températures qui vont de nouveau repartir à la hausse. Le matin sera encore un petit peu frais dans le nord-est.
Vous êtes content hein, quand vous dites à la hausse. Hein.
Oui, c'est bon. Hein.
Vous êtes payé au degré. Vous.
C'est ça. Ah bah oui, de toute façon, plus ça monte et plus on m'aime. Alors, donc 13 à 16
février,
degrés.
En février, ça va pas être terrible.
Du côté de la Bretagne. Et 16, écoutez, 16 à 20
oui, madame.
Degrés.
Oui, monsieur, pardon.
16 à 20 degrés dans la plupart des autres régions.
Merci, monsieur Baudin.
RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est parolienne. Parolière, musicienne, chanteuse, et le 22 mai prochain, c'est elle qui représentera la France à l'Eurovision avec sa chanson « Voilà ». Barbara Pravi est donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Barbara Pravi.
Bonsoir, merci beaucoup.
Alors normalement, là, on devrait enchaîner avec un extrait de votre chanson « Voilà ». Mais avant de vous écouter chanter, moi j'ai envie de vous écouter parler de vous, de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou, pour reprendre quelques-unes des paroles de votre texte. Alors on va revenir pour commencer, si vous le voulez bien, quelques années en arrière. On dit souvent que le droit mène à tout, à condition d'en sortir. Il paraît que vous, la fac de droit, c'était pas votre truc.
C'était pas mon truc et c'était même assez difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de mal avec l'école en règle générale.
Beaucoup de mal avec l'école.
Oui. Ouais.
Et il paraît que vous regardiez vos camarades et vous demandiez mais qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas. Vous avez trouvé la réponse aujourd'hui ou pas?
Je ne sais pas ce qu'ils ont. En fait, j'ai compris que j'avais autre chose et autre chose, c'est ben je sais écrire, je sais composer et je suis exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai compris que c'était mon endroit là où j'étais aujourd'hui et que je me sens très bien, très épanouie là-dedans.
Le comprendre c'est une chose, l'assumer et le dire c'en est une autre. Ça a été compliqué ça ou pas?
Ça a été compliqué de. C'est un long chemin en fait, parce que ça vient jouer sur beaucoup de tableaux, la confiance en soi, le rapport à soi, le regard des autres, surtout quand on fait un métier comme le mien. Donc oui, c'est un espèce de. Il faut se. Ça prend du temps de se construire. Et j'ai pas du tout fini, hein, mais
je suis. Vous êtes en construction.
Bien sûr.
D'accord. À 15 ans, dites-vous, j'aurais aimé qu'on me dise tout est possible. Et à quel moment vous êtes dit, moi, mon chemin, c'est de raconter des histoires, ça sera ça, c'est pas autrement? À quel moment vous êtes dit, toute seule, oui, tout est possible?
Je sais pas si je me le suis déjà formulé comme ça avant la conférence dont sont extraits ces propos, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute assez tôt. Donc du coup, c'est comme si c'était assez instinctif de faire... on a des ressentis quoi, et d'écouter mon instinct quoi, vraiment. Et donc par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter le droit, je l'ai pas dit à mes parents parce que eux ils voulaient que je fasse du droit.
Ça rassure
et
toujours les parents.
Ça le rassure
droit.
Évidemment. Et je me suis inscrite toute seule dans une école de musique, donc j'ai fait un emprunt à la banque, etc., etc. Et j'étais suffisamment âgée pour pouvoir le faire seule. Et donc je leur ai pas dit et je leur ai annoncé que j'arrêtais seulement quand j'ai été acceptée dans l'école en leur disant les amis, je change, je vais faire de la musique et en plus j'ai fait un emprunt.
Ouais. Ils ont dit quoi?
Ils ont dit que veux-tu qu'on te dise? Ils ont dit rembourse l'emprunt.
C'est un enthousiasme modéré. Alors,
voilà. Au départ, c'était un enthousiasme modéré de toute façon.
Et Barbara Pravi, quand on vous demande quelles sont vos influences musicales, vous répondez en chanson.
Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe.
Très belle reprise de Barbara. Dis, quand reviendras-tu? C'était dans le grand studio RTL avec Éric Jean-Jean il y a à peu près un an maintenant.
Exactement.
Du coup, Barbara, c'est votre vrai prénom ou c'est un hommage?
C'est mon vrai prénom. C'est mon vrai prénom et c'était même pas, je crois, un hommage à Barbara quand mes parents m'ont appelé comme ça. Ils ont tiré au sort.
Ils ont tiré au sort?
Oui.
Ah, ils n'étaient pas d'accord?
Parce qu'ils sont assez originaux.
Et Pravi, alors c'est votre vrai nom de famille aussi?
Non, Pravi, ce n'est pas mon vrai nom de famille. C'est mon grand-père serbe qui me l'a donné parce que je cherchais justement quelque chose pour aller avec Barbara, puisque Barbara existe déjà. Ouais. Et c'est difficile de trouver quelque chose qui aille bien avec.
C'est quoi votre vrai nom si ce n'est pas indiscret?
Pievic.
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 Pievic. C'est bien, Barbara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose en serbe?
Oui, ça veut dire fille de la chanteuse, enfin l'enfant de la chanteuse. Oui,
vous avez un nom de famille qui s'appelle enfant de la chanteuse et vous le changez, vous?
Je le change parce que c'est important pour moi d'avoir la vie privée et la vie professionnelle. C'est dans ma tête, en fait, ça fait une vraie. Ça a une vraie importance pour moi.
C'est
pour
pas
ma
la même.
Santé mentale.
C'est pas la même.
Si, c'est la même.
Parce qu'en même temps, vous vous racontez vous dans vos chansons.
Bien sûr.
Vous racontez votre vie, vos parcours, vos douleurs, vos souffrances, vos joies, tout.
Bien sûr, mais c'était important même par rapport à ma famille, histoire que. de les laisser un peu tranquilles, quoi. C'était important. Et puis j'aime bien Pravi, je trouve que ça me va bien. Il y a quelque chose de... J'aime bien ce « i » à la fin, là.
Côté influence, il y a donc Barbara, mais vous citez aussi Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Françoise Hardy. Du coup, est-ce que vous trouvez que l'élection de Pompidou à l'Élysée est une bonne nouvelle ou pas?
Je n'en ai aucune idée, je ne savais même pas qu'un Pompidou avait été élu à l'Élysée, figurez-vous. Oh, je ne suis pas du tout désolée.
Non, mais est-ce que vous avez un côté « c'était mieux avant »
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais par contre, je pense que ce qui est sûr, c'est que moi, je me reconnais dans les textes. J'aime vraiment les mots, mais je lis beaucoup. Et donc, du coup, c'est sûr que je suis plus attirée par ce qui se passait avant, parce qu'il y avait quelque chose... Je sais pas, c'est ça qui me bouleverse. J'ai pas trop de façon différente de le dire, mais non, je pense pas que c'était mieux avant. Je pense que chaque époque a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ce qui est sûr, c'est que je suis triste qu'il y ait moins de piano et moins d'orchestre.
d'orchestration. En revanche, vous citez pas Piaf dans vos références, et pourtant beaucoup disent qu'il y a un côté Piaf dans votre façon d'interpréter Voilà, la chanson de l'Eurovision. Il y a une volonté de faire Piaf parce que ça parle à tout le monde et parce que ça va être efficace le 22 mai ou pas?
Mais pas du tout. Mais en fait, elle fait partie de mes références parce qu'elle fait partie de cette vague-là d'artistes. Et puis, en plus, on le dit peu, mais c'était une excellente autrice-compositrice. Donc, c'est une femme qui a un parcours qui m'émeut beaucoup et que j'admire beaucoup. En revanche, moi, j'essaye pas de lui ressembler. J'essaye seulement de faire la musique qui me touche et qui m'émeut. Mais bon, je veux dire, je peux rien faire. Je mesure 1m59, elle mesure 1m59. On a exactement la même coupe de cheveux. Ouais. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a en commun, mais en commun avec Piaf, avec Brel, avec... en commun, dans une moindre mesure, mais je veux dire, ce désir de... C'est presque de la comédie, il y a un espèce de côté presque joué sur scène, c'est-à-dire que moi, quand je chante, je parle avec tout mon corps, avec mes mains, avec mes yeux.
Ça se sent et ça se voit et ça s'entend.
Voilà.
Comment on compose une chanson pour l'Eurovision? On se dit qu'il faut une note de ça pour plaire aux Anglais, une pincée de ça pour avoir des points des Suédois, et puis qu'il ne faut pas oublier les Irlandais non plus, ou pas?
Je crois que ça, c'est ce que j'ai fait pour les enfants, l'Eurovision Junior, mais pour moi, non, parce que j'ai pas pensé Eurovision. J'ai pensé comment est-ce que, avec cette opportunité-là que j'aurais de chanter à la télé, ce qui est quand même très très rare, de chanter une chanson originale sur une heure de grande écoute, etc., comment est-ce que je vais faire pour être absolument moi-même et la plus juste et la plus sincère possible. Et donc, c'est-à-dire ne pas me transformer parce que je sais qu'il y a une échéance derrière. Et donc, c'est ça qui a été délicat, parce que j'ai jamais pensé que je faisais une chanson pour l'Eurovision, sinon j'aurais clairement pas fait Voilà. J'aurais fait un truc avec un couplet, un refrain et un pied sur tous les temps. Mais c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'aime.
Et là, vous êtes étonnante et vous avez un vrai style et même différents styles, c'est que vous parliez des enfants. Vous avez donc écrit notamment pour Carla, c'était Bim Bam Toi, Eurovision Junior en 2019. Alors là, c'est un autre registre,
un autre style, dans un autre, sans transition. Non, mais on n'écrit jamais pareil quand on écrit pour soi ou quand on écrit pour quelqu'un d'autre. J'ai pas le même âge que Carla. À l'époque, elle avait 14 ans.
Vous avez 27 ans aujourd'hui.
J'ai 27 ans. Ouais. Ouais. Et puis surtout, c'était une commande, c'est-à-dire qu'on nous a l'appel d'offres, c'était Eurovision Junior. Il faut une chanson qui soit punchy, qui soit machin. Et en fait. Nous, tel qu'on a pris la chose avec Igitt, qui est la personne avec qui j'ai co-composé et co-écrit, on a regardé ce qu'avait fait Carla. Elle avait fait The Voice Kids. Ouais. Et en fait, elle avait proposé une chanson de Björk, ce qui est quand même assez étonnant à son âge. Et elle avait proposé It's Oh So Quiet. Et c'est une chanson hyper pleine d'onomatopées, où il faut avoir un côté hyper comédien. Elle danse, elle est très vive, elle est très intelligente et très maligne. Et elle a ce côté espiègle, très charmant. Et en fait, on s'est inspiré de ces qualités-là pour faire Bim Bam.
Donc vous êtes adapté. Vous écrivez beaucoup pour les autres. Vous écrivez notamment pour Julie Zenati. Vous avez écrit pour Yannick Noah. Comment on en vient à écrire pour Noah, par exemple?
Alors, c'est pas l'expérience la plus marrante, parce qu'en fait, c'était pour le coup aussi un appel d'offres. Ouais. Donc, je l'ai rencontré après qu'il ait choisi la chanson. Mais en fait, je pense qu'il a choisi la chanson parmi un répertoire de peut-être 100 chansons qu'il a reçues.
En fait, c'est un business. Comme là, une petite annonce, je veux ça. Et...
Parfois, oui. Et puis, parfois, on rencontre. Par exemple, Julie Zenati, typiquement, c'est une vraie rencontre humaine. Et on a beaucoup discuté, on a passé des heures à parler, à boire des cafés et à écrire, quoi. Ensemble.
Alors, vous écrivez pour les autres, vous écrivez aussi sur vous, et là on revient à votre répertoire, à vous, comme dans Cher. Cher qui parle de l'avortement que vous avez vécu il y a quelques années.
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps, une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y penses.
Texte très fort, qui est dit de manière différente de ce qu'on a déjà entendu de vous. C'est du slam ? Vous dire c'est du slam ou...
Un petit peu, oui. En
fait, ça m'a fait penser à Grand Corps Malade, je vous dis.
Mais... Ah ouais, c'est gentil, c'est une très jolie, c'est un très joli compliment, je le prends. En fait, c'est ce genre de texte-là, enfin ce genre de témoignage-là, parce que c'est vraiment un témoignage, c'est en effet un texte qui pourrait être lu même sans musique. C'est difficile de raconter une histoire avec autant de charges émotionnelles sans, en trois minutes, avec couplet-refrain. Et donc, du coup, c'était un vrai parti pris et de faire un genre de slam. Et en même temps, Cher s'inscrit dans le projet des Journées internationales du droit des femmes. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais des réécritures de rap. Donc, il y a eu Kid de Eddy de Préto la première année, et puis Note pour trop tard de Orelsan la deuxième. Et donc, du coup, il y avait une espèce de logique de texte un peu parler que je fais pas d'habitude dans mes
ce que vous aimez c'est les mots en fait non
bah bien sûr ouais. même presque plus que chanter en fait c'est pas bien de dire ça mais si en fait
ça ne sera pas retenu contre vous
merci
vous savez que si vous gagnez l'Eurovision le 22 mai on n'aura plus à passer ça tous les ans. Ça, c'est comme la victoire de Noah Roland-Garros. Ouais. À chaque Roland-Garros, c'est depuis 83 aucun Français. Et on oublie d'ailleurs les Français.
C'est une belle chanson, on a de la chance quand même que ce soit celle-ci. Oui, ouais, je comprends, mais par contre,
Marie Myriam,
c'est une belle chanson.
L'enfant, dernière victoire française, c'était en 1977.
44 ans, oui.
Vous aviez moins 16 ans.
Par contre, je suis nulle en maths. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais moins quelque chose. Oui, ça, c'est certain.
Bon, et si vous gagnez pas, alors
bah, c'est pas grave. Bah, en même temps, le truc, c'est que c'est un petit peu... c'est un petit peu couillu de proposer voilà, parce que c'est vrai que l'Eurovision, on a l'habitude de voir des choses avec plein de paillettes. C'est du show, en fait. C'est vraiment du show. Et moi, j'arrive avec quelque chose...
Alors, vous n'êtes pas dans le kitsch, hein, le kitsch habituel de...
Ah non, et puis je ne travestirai rien pour faire cette émission. Donc, en fait, la prestation que je vais faire à Rotterdam sera la même, en mieux, j'espère. Mais, je veux dire, ce sera le même concept. Je serai habillée en noir. On m'a proposé du blanc, j'ai dit non. Pour moi, la couleur de voilà, la couleur de l'humilité, c'est le noir. Je veux être en noir, on ne me changera pas ça, on ne me changera pas mes lumières. Donc en fait, peut-être soit les gens s'ennuient.
Parce que vous avez même dit, il paraît, si on change ma chanson, si on m'oblige à chanter autre chose, j'y vais pas, je m'en fous de l'Eurovision.
Bien sûr, mais je pense que c'est comme ça. Je veux dire, je suis artiste, je suis pas un petit singe qu'on peut modeler. Et je crois que c'est pas être nul que d'avoir des convictions et de savoir pourquoi on fait les choses, au contraire.
Qu'est-ce que vous ferez le 22 mai, juste avant de monter sur scène? Vous avez des gris-gris, des petits trucs un peu.
Je pense que je vais convoquer tous les saints de la terre, même ceux auxquels je crois pas, pour leur demander de l'aide. Je suis très concentrée avant de monter sur scène, donc je marche et je pense que je marche des kilomètres, mais je m'en rends pas compte. Je tourne en rond comme ça et je suis très intérieure.
Bon, eh ben on sera avec vous en tout cas le 22 mai. On vous dit merde, toute amitié. Et on va enfin l'écouter cette chanson, mais on va l'écouter en intégralité. Ça s'appelle
Merci
Voilà.
Beaucoup.
C'est signé Barbara Pravi. Merci beaucoup d'être venu nous voir en direct dans l'intérieur. Vous viendrez quand vous serez encore plus connu ou pas?
Bien sûr, je viendrai. Je vous offrirai à tous des fleurs pour vous remercier de m'avoir reçu avant.
Faites gaffe, c'est enregistré.
Mais merci, mais c'est beaucoup. Pas grave, je le fais vraiment.
Et on écoute Voilà.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux et mes mains. Tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà. Voilà, 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 voilà,
voilà. Barbara Pravi, la chanson qui va faire oublier et Marie Myriam et Yannick Noah le 22, le 22 mai prochain. Barbara, vous reviendrez nous voir le 23, le lendemain ou le surlendemain, dès que vous rentrez de Rotterdam.
Je promets.
C'est promis.
C'est enregistré, je promets.
Votre première radio, vous la faites avec nous.
Promis.
Pour nous raconter tout ça.
Promis.
Et ben bonne chance et à très vite.
Merci beaucoup.
À suivre, la culture de l'actu quand Monaco bat le PSG. Julia Molcou, qui s'intéresse pourtant pas beaucoup au foot, nous emmène sur le rocher.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et c'est l'heure de retrouver Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors hier soir, le PSG s'est incliné 2-0 face à Monaco. Alors donnez-nous votre commentaire sportif sur cette rencontre. Non, c'est pas ça. Non.
Écoutez, j'arrête pas de parler de foot dans cette émission. J'ai fait Barcelone la semaine dernière.
Non, mais là vous allez parler de Monaco surtout dans la culture de l'actu.
Bah oui, alors est-ce que vous connaissez déjà la superficie de la principauté de Monaco?
Oui, elle est petite.
Oui, elle est très petite. 2,02 km².
Elle est vraiment toute petite.
Toute petite. Et combien d'habitants?
Oh, pas beaucoup.
38 000.
Privilégié.
Un peu plus. Ce qui en fait le pays le plus densément peuplé au monde. Alors voilà, ça, il fallait le savoir. Alors Monaco, c'est bien sûr...
Vous voulez qu'on les plaigne, c'est ça?
Non, c'est pas du tout, je voulais juste vous le dire. Monaco, c'est bien sûr son Grand Prix de Formule 1, mais aussi son jardin exotique, ouvert en 1933 et proposant une grande variété de plantes dites succulentes. Alors Louis, qu'est-ce qu'une plante succulente?
C'est une plante qui est bonne, non?
Une plante qui est bonne, qui se mange.
Pas du tout, c'est une plante capable de stocker énormément d'eau et donc de survivre dans un milieu hostile. Bon, et puis comment évoquer Monaco sans parler de son musée océanographique? Voilà. Fondé en 1889 par le prince Albert Ier, surnommé le prince navigateur savant. Musée qui d'ailleurs fut dirigé 30 ans par le commandant Cousteau. Ah ça prouve l'engagement du musée. Et puis à Monaco, il n'y a pas que la Méditerranée et les poissons, il y a aussi cling, 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 le casino. Le casino.
Je m'appelle Bond. James Bond.
Le célèbre
vous faites
casino.
Très bien le gling 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 gling.
Le célèbre casino de Monte-Carlo, le plus chic de tout, celui que James Bond aime fréquenter, lui qui n'est pas monégasque. Parce que figurez-vous qu'il est une loi en vigueur depuis 1987 à Monaco qui fait qu'aucun monégasque n'a le droit de jouer dans un casino ou une maison de jeu. Je les ai même appelés ce matin pour vérifier ça avant de vous raconter n'importe quoi.
C'est vous vérifiez vos infos, vous progressez, Julien.
2021, je suis quelqu'un de différent. Mais en revanche, les gens qui habitent la principauté peuvent quand même aller le visiter. Parce que le casino de Monaco, ambiance belle époque, se visite le matin en famille jusqu'à 13h. Voilà, bon bref. Et savez-vous qui fut l'un des hauts dirigeants de la société propriétaire du casino?
La société des bains de mer, c'est ça?
Oui, mais qui fut l'un de ces hauts dirigeants?
La société des bains
oui,
de mer.
Oui, c'est ça, non, c'est tout à fait celle-là. Eh bien, un certain Joseph Ferré, le père d'un autre certain Léo.
Que ça veut dire ça? Le système? Où est l'autre système? Et les gens qui font la manche, ils sont dans le système? Non, ils font la manche pour des gens qui sont dans le système. Ça, c'est un mot qui m'abomine en ce moment. Hein. Excusez-moi, mais le prochain qui me dit ça, t'es dans le système. C'est incroyable, non? T'es dans le système. Et oui. Et toi, tu es dans le système.
Ben oui.
T'es tout dans le système.
Et toi, tu es dans le système. Alors ça, c'était en 74, quelques jours après avoir été agressé à Nice par des gens qui lui reprochaient donc d'être
dans le système.
Dans le système, on l'aura compris. Et c'est vrai qu'il
fut... méthode assimile.
Et c'est vrai qu'il fut souvent reproché à Léo Ferré d'être né à Monaco en 1916, je le précise pour ceux qui se posaient la question. Et on disait de lui qu'il était un nanar en Rolls, lui qui pourtant ne roulait qu'en Mercedes.
Pour avoir la foi, il faut être charbonnier, pour être mal chaussé, il faut être cordonnier, pour
ça, c'est plus Léo Ferré.
Pour pas payer la peau, il faut être à Monaco.
Ah bah c'est Joe Dassin. Évidemment, Joe Dassin. Alors Monaco, sa fiscalité donc, et surtout sa famille princière, actrice, chanteuse, artiste de cirque, cavalière hors pair, on ne sait plus où donner de la tête.
À New York, toute la presse était sur les dents, et les journalistes sur les pieds les uns des autres,
Pour assister au départ de Grace Kelly, bientôt, nul ne peut plus l'ignorer, princesse souveraine de Monaco.
En seulement 5 années de cinéma, Grace Kelly était devenue l'une des plus grandes actrices du cinéma américain des 50s. Mais ni Alfred Hitchcock, ni Gary Cooper, ni Frank Sinatra, avec qui pourtant elle partageait l'affiche de son dernier film, Haute Société, ne feront le poids face à Renier III, que l'actrice épousa en 56 et dont elle eut 3 enfants, Caroline, Albert et vous me voyez venir.
Et Stéphanie. Stéphanie.
Que j'allais passer comme un ouragan, bah, parce que vous pensez que Stéphanie de Monaco n'avait qu'un seul titre, Tube, dans son escarcelle.
Tout. Mais pas du tout.
Et bien, c'est mal connaître sa discographie. Voilà, parce que ça, c'est Flash. Alors, c'est sûr que c'est moins resté dans les têtes que comme un ouragan, que Thomas peut probablement nous chanter à cappella tout de suite si on le lance.
Tout à l'heure.
Mais malgré tout, en 87, ce titre connut lui aussi un joli succès. D'estime, je sais pas, mais un succès quand même. La suite fut moins glorieuse, hein, que ce soit Fleur du Mal, un titre en hommage à son ex-petite amie. Vous vous souvenez d'un de ses ex-petites amies?
Non,
Paul Belmondo, bien avant. Où,
ah bon,
ben oui, Belmondo, elle a été avec Paul Belmondo et elle a écrit un titre qui s'appelle Fleur du Mal, on ne l'a pas, ou ses chansons en anglais. Bon, ben là, pour le coup, ça n'a pas fait, ça n'a pas pris. Voilà. Et donc, la princesse raccrochait le micro et depuis, elle s'occupe du cirque à Monaco.
Eh ben ouais.
Voilà tout ce qu'il voulait savoir sur Monaco.
Je la sens un peu cruelle avec la princesse, donc on va la réhabiliter, mon cher Louis, pour vous annoncer quoi de mieux que. Bah oui, pour aller vers la météo.
Trop facile.